Vous écoutez On lit pour vous.
De l'espoir pour des milliers de Québécois. Un texte d'Alice Girard-Bossé, paru le 8 septembre 2024 dans la presse. Une maladie neuromusculaire méconnue, la dystrophie musculaire oculopharyngée, est présente ici depuis des siècles et touche aujourd'hui des milliers de Québécois. Mais depuis peu, un espoir pointe à l'horizon, avec l'arrivée d'un traitement expérimental qui pourrait leur permettre de mener une vie plus normale. J'espère que ça va pouvoir aider mes neveux et nièces. Des milliers d'aînés québécois composent au quotidien avec une maladie génétique peu connue qui entraîne des symptômes handicapants, dont une perte musculaire, des problèmes de déglutition et un abaissement des paupières. C'est même ici, au Québec, qu'il y a le plus de cas au monde. Dans la famille d'André Clément, originaire de Montmagny, la maladie frappe ou épargne la fratrie en proportions égales. Sur 8 frères et sœurs, 4 en sont atteints, les 4 autres, non. À la fin de la quarantaine, les paupières d'André Clément ont commencé à tomber. Il fallait que je lève la tête pour regarder devant moi, se remémore-t-il. C'était il y a 15 ans. Il a immédiatement compris qu'il était atteint de la dystrophie musculaire oculopharyngée, DMOP. Sa mère avait reçu le même diagnostic quelques années plus tôt, après avoir été hospitalisée parce qu'elle était désormais incapable d'avaler ses médicaments. C'est une maladie génétique dominante. Donc, quand l'un des parents l'a, les enfants ont une chance sur deux de l'avoir, dit le docteur François Coderre, ophtalmologiste et professeur associé au département d'ophtalmologie de l'Université de Montréal. Des milliers de Québécois touchés. La DMOP est une forme de dystrophie musculaire présente au Québec depuis des siècles. On estime aujourd'hui qu'environ une personne sur 1000 dans la province est porteuse de la mutation. On en entend moins parler parce que ce n'est pas une maladie létale, mais ça a un impact très important sur de grands groupes de personnes au Québec, nous dit le docteur François Coderre, ophtalmologiste. La maladie est d'ailleurs 100 fois plus commune au Québec qu'en France. C'est un problème important en termes de santé publique et de neurologie, dit le neurologue et chercheur Bernard Bray de l'Hôpital neurologique de Montréal. Le spécialiste suit des patients atteints de cette maladie depuis le début des années 1990. C'est d'ailleurs lui qui a identifié le gène responsable de la maladie au début de sa carrière. À l'heure actuelle, l'hypothèse la plus probable est que la mutation ait été introduite au Québec par 3 sœurs, toutes filles du roi. On a trouvé la même erreur génétique en France, dans les mêmes villages d'où ces sœurs-là venaient, explique le docteur Bray. Aujourd'hui, des centaines de familles à travers le Québec sont touchées, avec une plus grande concentration dans le bas du fleuve, notamment à Montmagny et à Lillet. Les filles du roi étaient de jeunes Françaises envoyées en Nouvelle-France entre 1663 et 1673 par le roi Louis XIV afin de peupler la colonie. Ces quelques 800 femmes ont joué un rôle clé dans le peuplement de la région et ont laissé une empreinte considérable sur la généalogie des Québécois. Les personnes porteuses de la maladie n'ont généralement aucun symptôme jusqu'à la quarantaine, où elles commencent à éprouver des difficultés à avaler. Puis, leurs paupières commencent à tomber. Dans la soixantaine, les symptômes progressent, entraînant des faiblesses dans les jambes. Certaines personnes se retrouveront en fauteuil roulant. Depuis quelques années, je m'aperçois que si je ne fais pas attention en mangeant, j'avale sans arrêt. La nourriture ne passe pas, témoigne André Clément. Certains aliments sont pires que d'autres, comme la pelure des raisins verts, le beurre d'arachide, les œufs cuits durs et les frites, détaille-t-il. Pour avaler de grosses pilules, il les mélange avec du yogourt en utilisant une cuillère. Je mange plus lentement et je fais attention. Je mange froid, mais au moins je mange pareil, résume-t-il. Dernièrement, il remarque qu'il n'a plus la même force musculaire, surtout dans les jambes. Aucun traitement n'existe pour renverser les symptômes de la maladie. On a donc de grands athlètes qui rangent leur vélo à 65 ans parce qu'ils ne sont plus capables, dit le docteur Bray. Certaines interventions sont toutefois réalisées pour réduire l'impact des symptômes. André Clément a subi une première opération au début de la cinquantaine, au cours de laquelle on a retiré un demi-pouce de peau de ses paupières. L'intervention s'est révélée efficace pendant quelques années, mais avec la progression de la maladie, il a dû subir une deuxième opération à 60 ans, appelée suspension frontale. On passe des fils synthétiques, comme du nylon, pour faire une bretelle entre le sourcil et le rebord de la paupière, de sorte que, quand le patient lève le front, ça relève les paupières, explique le docteur François Coderre. Ce sont maintenant les muscles de mon front qui ouvrent mes paupières, résume M. Clément. L'intervention lui permet d'ouvrir les yeux beaucoup plus facilement, bien que ce ne soit pas parfait. Encore aujourd'hui, si je vais chez l'optométriste et qu'on me demande d'ouvrir grand les yeux, je ne peux pas. Je prends mes doigts pour les ouvrir. Pour les patients qui ont des problèmes de déglutition marqués, une intervention temporaire peut également être réalisée. On passe un tube dans la gorge pour dilater les muscles touchés par la maladie, explique le docteur Bray. Vous écoutez « De l'espoir pour des milliers de Québécois », un texte d'Alice Girard-Bossé, paru le 8 septembre 2024 dans La Presse. Depuis quelques mois, un nouveau traitement en thérapie génique est en développement aux États-Unis. André Clément, 65 ans, s'est proposé pour participer à la recherche si elle se tenait un jour au Québec. Le temps que ce soit approuvé par Santé Canada, je ne pense pas que ça va changer grand-chose pour moi, mais j'espère que ça va pouvoir aider mes neveux et nièces. Ce traitement pourrait être le premier à arrêter, voire contrer les effets de la maladie. La DMOP est répertorié dans plus de 35 pays, dont les États-Unis, le Mexique, le Brésil, l'Espagne, la Russie, l'Australie, l'Afrique du Sud et le Japon. La prévalence de la maladie est particulièrement élevée chez les Juifs originaires de Boukhara, en Ouzbékistan, dont beaucoup vivent aujourd'hui en Israël. Quelque 115 patients atteints de la maladie ont été identifiés dans une population de 70 000 personnes, ce qui correspond à environ une personne sur 600. C'est toutefois au Québec que l'on retrouve le plus grand nombre de cas dans le monde, estimé à plus de 6 000. Un traitement prometteur à l'étude aux États-Unis. Un médicament expérimental prometteur visant à freiner la progression des symptômes de la maladie et même l'inverser, fait l'objet d'essais cliniques aux États-Unis. Même si les résultats sont encore préliminaires, le traitement suscite un grand espoir parmi les personnes touchées à travers la province. La société australienne Benitech Biopharma a mis au point un médicament expérimental, le BB-301, pour traiter la dystrophie musculaire oculopharyngée, DMOP. Le traitement permet, grâce à des injections intramusculaires, de remplacer le gène PABPN1, responsable de la maladie dans les cellules du patient. Le produit a d'abord été administré à des souris atteintes de la maladie et a restauré avec succès leur force musculaire. Il y a quelques mois, un essai clinique de phase 1 a été lancé chez des humains aux États-Unis. Le traitement est injecté à différents endroits dans la gorge des patients, dans le but d'éliminer les problèmes de déglutition causés par la maladie. Pour l'instant, seul le résultat du premier patient a été rendu public en avril 2024. Mais déjà, les essais semblent très prometteurs. après 3 mois. Le patient dit aller mieux et il performe vraiment mieux à tous les tests. C'est complètement fou. Évidemment, ce n'est qu'un seul cas, dit le neurologue Bernard Bray. Par souci de transparence, il précise qu'il a déjà siégé au comité scientifique de la société pharmaceutique dans les dernières années, mais il n'a aucun intérêt financier dans le projet. Les résultats des prochains patients devraient être rendus publics au cours des prochains mois. Le traitement utilise la thérapie génique. En quoi consiste cette approche? La thérapie génique est une approche médicale visant à traiter ou prévenir des maladies en ajoutant, en supprimant ou en modifiant des gènes des cellules d'une personne. L'idée est donc d'agir directement sur le matériel génétique d'un individu pour corriger des anomalies responsables de certaines pathologies. La thérapie génique est utilisée pour traiter diverses maladies, notamment certaines formes de cancer, des troubles génétiques rares comme la dystrophie musculaire et des maladies virales. Pourquoi les essais cliniques sont-ils réalisés aux États-Unis plutôt qu'au Québec? L'Institut neurologique de Montréal avait été présélectionné par la société Benitech Biopharma comme endroit possible pour faire les essais cliniques. Mais notre code d'éthique a été trop long dans son processus d'approbation alors que le centre de New York a réglé l'approbation en 3 mois et complété tout le recrutement des 28 cas pour l'étude dans un délai de 3 mois, explique le Dr Bray. Des patients québécois auraient toutefois souhaité participer à l'étude. C'est le cas de Louis-Michel Gay, 70 ans, qui avait soumis en 2021 une proposition sur le site Internet du gouvernement du Québec pour que l'étude ait lieu dans la province. Soyons conscients que nous avons la communauté des patients affectés par le DMOP la plus élevée au monde et qu'il s'agit d'une opportunité exceptionnelle d'inscrire le Québec comme étant un leader dans la recherche plutôt qu'un parent pauvre, comme c'est le cas actuellement, avait-il déclaré. Il se désole aujourd'hui que l'étude ait lieu chez nos voisins du Sud. « Ça m'a énormément déçu », confie-t-il. Quand peut-on s'attendre à des résultats complets? C'est une étude qui pourrait donner des résultats dès 2025, estime le Dr Bray. Le traitement devrait avoir été testé chez 23 patients. De nombreux défis devront toutefois être surmontés avant que le traitement ne soit offert. En effet, la thérapie génique est une approche encore en développement qui peut être complexe et entraîner des effets secondaires importants, en plus d'être extrêmement coûteuse. Le Dr Bray ne serait pas étonné que le traitement coûte des centaines de milliers de dollars par patient. C'était « De l'espoir pour les milliers de Québécois », un texte d'Alice Girard-Bossé, paru le 8 septembre 2024 dans La Presse.
Des souris et des élèves, un texte de Florence Bourget-Rousseau, paru le 23 août 2024 dans Le Devoir. En juillet 2024, le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, annonçait, en pleine vacances estivales, une coupe de 400 millions dans le budget d'entretien des écoles du Québec. Un choix troublant, compte tenu de sa déclaration suivante : « L'état de nos infrastructures scolaires demeure, pour notre gouvernement, une priorité. » À cette nouvelle, un collègue s'est exclamé : « De toute façon, mes élèves ne crient même plus lorsqu'on aperçoit des souris en classe. Ils y sont habitués. » Il enseigne dans une école primaire de Verdun. « Pour ma part, j'ai terminé la dernière année scolaire entourée de grosses fourmis volantes, ayant élu domicile dans les cracks du plancher depuis mai 2024. Je les écrasais discrètement lorsqu'elles volaient sur la table de travail de mes élèves afin de ne pas les affoler. » Puis, il y a quelques jours, une autre collègue de Laval m'a informé avec joie J'ai reçu mon affectation. Enfin, une école catégorie A, belle et salubre. Entre le rire et le découragement, je l'ai félicité de sa chance. En effet, c'est une chance, dans le réseau scolaire public québécois, d'avoir une école propre et en bon état. Ce qui en dit long sur les conditions du métier d'enseignant, mais aussi sur le milieu de vie quotidien de nos jeunes. Selon un article de Zachary Goudreau du Devoir, des documents issus du dernier budget provincial indiquent que 56 % des établissements du réseau scolaire sont jugés en mauvais ou en très mauvais état, bien que Québec se fût donné pour cible qu'au moins la moitié d'entre eux soient en bon état d'ici 2023. Plus de 400 millions de dollars retranchés à l'entretien des écoles du Québec, Le Devoir, 10 juillet 2024. Dans le centre de services scolaires de Montréal où j'enseigne, plus de 76 % de ces bâtiments sont jugés en mauvais état. L'annonce estivale de M. Drainville a donc surpris les gestionnaires scolaires pris de court. C'est donc au moment même où de nombreux chantiers sont planifiés ou en cours afin de résorber une partie de ce déficit d'entretien accumulé, qui se manifeste notamment par des toits qui coulent et des problèmes de ventilation, que la FCSSQ constate que ses membres disposeront cette année de moyens moins importants pour financer ces travaux pourtant nécessaires pour prolonger la durée de vie de plusieurs bâtiments. Si l'éducation était réellement une priorité, ce sont des enseignants qualifiés dans des écoles en bon état qui accueilleraient nos enfants à la rentrée scolaire. Pourtant, les données parlent d'elles-mêmes. Il manque désormais près de 5 700 enseignants pour la rentrée scolaire 2024-2025, et ce, après les dernières affectations. Je ne comprends donc pas l'optimisme de notre ministre de l'Éducation. Monsieur Drainville, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Si vous voulez retenir ou ramener les enseignants et les élèves dans nos écoles publiques, vous devez leur offrir ce qu'ils méritent, un milieu de travail sain, leur offrant les meilleures chances de réussite. C'était « Des souris et des élèves », un texte de Florence Bourget-Rousseau, paru le 23 août 2024 dans Le Devoir.
Réflexion sur les contradictions d'un temps agité par l'indignation instantanée. Un texte de Lucas Gagnon-Dragon, paru le 18 septembre 2024 dans Le Devoir. Un spectre hante notre époque, telle une ombre insaisissable qui enveloppe les contours de notre société en mutation, la culture du bannissement ou « cancel culture ». Drapée dans les atours de la vertu, celle-ci se présente comme une quête de pureté morale, mais révèle en filigrane les fractures profondes et les contradictions qui déchirent notre civilisation, oscillant entre un passé tumultueux et les promesses incertaines d'un avenir en gestation. L'âpreté des échanges lors du débat présidentiel entre l'ancien président Donald Trump et la vice-présidente Kamala Harris a embrasé l'arène virtuelle. Chaque camp, retranché derrière ses certitudes, s'est livré à une critique virulente de l'autre. Les républicains, maniant souvent la parodie acerbe, ont caricaturé les démocrates en héros du wokisme et de la cancel culture. Mais n'est-il pas ironique de voir cette accusation émaner d'un parti privilégié par certains États qui, à l'instar de la très républicaine Floride, ont promulgué des lois telles que le Parental Rights in Education Act, que ses détracteurs ont renommé le Don't Say Gay Act? Cette loi, en restreignant l'enseignement de la sexualité, notamment sur les questions d'identité de genre et d'orientation sexuelle, reflète une vision puritaine des États-Unis. Ne s'agit-il pas là d'une manifestation tangible de cette même « cancel culture » que la droite américaine fustige avec tant de véhémence, l'exemple édifiant de la campagne publicitaire de Bud Light qui met en vedette l'influenceuse transgenre Dylan Mulvaney illustre davantage ce paradoxe. À la suite de ce partenariat, une frange conservatrice a appelé au boycottage de la marque, ce qui a entraîné une chute importante des ventes. En invoquant la défense de la liberté, ces mêmes acteurs emploient les armes qu'ils dénoncent, révélant un manque d'introspection et une fragilité de l'ego collectif. Accuser autrui des maux dont on se rend soi-même coupable témoigne d'une cécité morale. Réagir avec véhémence et impulsivité aux critiques de l'autre, au point d'adopter les comportements honnis, révèle une incapacité à faire face à ses propres contradictions. Comme le rappelle la sagesse antique, on peut combattre l'ego, mais on ne peut l'anéantir. Il est donc impératif de cultiver l'humilité et la réflexion pour transcender cet clivage. De vieilles dynamiques d'exclusion. La culture du bannissement n'est pas le monopole d'un camp idéologique. Elle est une épée à double tranchant, brandie par tous ceux qui cherchent à effacer ce qui heurte leur sensibilité ou contredit leur vision du monde. Tel un Janus moderne, elle présente un double visage selon celui qui la contemple. Certains l'utilisent pour épurer le discours public des éléments jugés offensants, tandis que d'autres s'en servent pour préserver des valeurs qu'ils estiment menacées. Historiquement, la censure et l'exclusion sont des mécanismes récurrents. Les heures sombres du macartisme des années 1950, où Hollywood était secoué par une chasse aux sorcières anticommunistes, en sont une illustration marquante. Bien avant cela, les voix dissidentes étaient ostracisées, marginalisées, voire persécutées. Les libres penseurs, les syndicalistes, les révolutionnaires ont souvent payé le prix fort pour avoir défié l'orthodoxie dominante. La cancel culture contemporaine n'est que l'héritière numérique de ces dynamiques ancestrales d'exclusion. Ce qui a changé, c'est l'outil. Les réseaux sociaux sont devenus l'agora moderne, une arène où chaque mot, chaque idée sont scrutés, disséqués, jugés. La parole, qui autrefois s'évanouissait dans l'éther, s'inscrit désormais en lettres indélébiles sur la toile. Une simple capture d'écran suffit à immortaliser une pensée fugace, la soumettant au tribunal immédiat et souvent impitoyable de l'opinion publique. Nous vivons à l'ère de l'indignation instantanée, où la réactivité l'emporte sur la réflexion. Cette facilité technologique a transformé l'outrage et la consternation publique en un phénomène omniprésent, un tribunal sans visage ni responsabilité. La liberté d'expression, ce pilier fondamental des sociétés démocratiques, se heurte à la réalité d'une communication globale et instantanée où le moindre faux pas peut entraîner une mise au ban définitive. Sommes-nous, en fin de compte, les artisans de notre propre malheur? Dans une société régie par les lois du marché, la culture du bannissement peut être perçue comme l'expression du principe de l'offre et de la demande. Une personnalité publique qui déplaît voit sa cote chuter, ses commanditaires se retirer, ses plateformes se réduire. C'est la sanction économique d'une opinion impopulaire, le reflet d'une collectivité qui exerce son pouvoir de consommateur. Pourtant, cette logique mercantile entre en collision avec les principes libéraux qui valorisent la pluralité des voix et le débat contradictoire. La liberté d'expression implique une acceptation du risque inhérent à la confrontation des idées. Il y a une distinction cruciale entre la liberté de parole et l'absence de conséquences. Chacun est libre de s'exprimer, mais nul n'est exempt des réactions que ses propos peuvent susciter. La véritable question qui se pose est celle de la mesure et de la justice dans ces réactions. Un miroir aux alouettes. Alors que les républicains, dont beaucoup confondent les notions de libéral et de woke, se proclament défenseurs des libertés individuelles, Ils ont soutenu l'invalidation de l'arrêt Roe v. Wade et ainsi restreint le droit fondamental des femmes à disposer de leur propre corps. Ironiquement, en dénonçant la « cancel culture » attribuée à la gauche, ils contribuent eux-mêmes à l'effacement de droits essentiels dictés par une interprétation subjective du beau, du bon et du bien. Ce paradoxe illustre l'instrumentalisation de la liberté d'expression ou de la tolérance par les différents courants politiques, chacun les invoquant lorsqu'elles servent ses intérêts et les bafouant lorsqu'elles les contrarient. Ce phénomène agit ainsi comme un miroir aux alouettes, reflétant les fractures profondes de notre société et les contradictions inhérentes à nos discours. Elle révèle un malaise plus vaste, la difficulté à accepter la complexité, la nuance, la divergence. Dans un monde en quête de certitude, la tentation est grande de réduire l'autre à une caricature, de le disqualifier plutôt que de l'écouter. Pourtant, c'est précisément dans la confrontation respectueuse des idées que réside la richesse d'une démocratie vivante. La pluralité des opinions n'est pas une menace, mais une occasion d'élargir nos horizons, de remettre en question nos préjugés, de grandir en humanité. Refuser cette diversité, c'est se condamner à l'appauvrissement intellectuel. En définitive, pour surmonter les divisions qui nous séparent, nous devons réapprendre l'art du dialogue, de l'écoute sans préjugés, de l'acceptation de la complexité. Reconnaître que la vérité est parfois plurielle, qu'elle se niche dans les interstices des opinions divergentes. Et surtout, comprendre que, contrairement à l'affirmation de Sartre, l'enfer n'est pas nécessairement les autres. L'autre est une porte ouverte sur l'inconnu, une chance de remettre en question nos certitudes, d'élargir notre perspective. En embrassant cette complexité, en célébrant la diversité des voix et des pensées, nous pourrons construire une société véritablement libre et démocratique. Une société où la divergence n'est pas perçue comme une menace, mais comme une richesse inestimable. Une société qui préfère la construction de ponts à l'érection de murs, qui choisit la compréhension plutôt que la condamnation. C'était Réflexion sur les contradictions d'un temps agité par l'indignation instantanée. Un texte de Lucas Gagnon-Dragon, paru le 17 septembre 2024 dans Le Devoir.